te passer tonton Georges qui expire. Ce sont tout simplement les anges qui soupirent. Et si vous entendez crier comme en 14, debout, debout les morts, ne bombez pas le torse. C'est l'épouse exaltée d'un rédacteur en chef qui m'incite à monter à l'assaut de rechef. Certes, il m'arrive bien revers de la médaille, veilleux de laisser quelquefois des plumes à la bataille. Hippocrate dit oui, c'est des crêtes de coq. Et Galien répond non, c'est des gonocoques. Tous les deux ont raison, Vénus parfois vous donne de méchants coups de pied qu'un bon chrétien pardonne. Car s'il cause du tort aux attributs virils, il met rarement l'existence en péril. Eh bien oui, j'ai tout ça, rançon de mes fraudaires. La barque pour Cythère est mise en quarantaine. Mais je n'ai pas encore, non, 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 trois fois non, ce mal mystérieux dont on cache le nom. Si j'ai trahi les gros, les joufflus, les obèses, c'est que je baise, que je baise, que je baise. Comme un bouquin bélier, une bête, une brute, je suis hanté de rut, le rut, le rut, le rut.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los deseos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es peleado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, ladrido, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y lo está alumbrando la gruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y trancos, playas y desierto, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, todos los materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto.
Fameux bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu quand mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler une nouvelle fois du Service national universel, le SNU. On a déjà fait plusieurs émissions, mais je crois qu'on ne peut pas abandonner parce que du côté du gouvernement, ils n'abandonnent pas ce dispositif. Donc, on est obligé de continuer à lutter contre ça. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une représentante d'un syndicat lycéen qui s'appelle Faustine Écolan. C'est bien ça, hein, Faustine ?
C'est bien ça, oui.
Alors, bonsoir, Faustine.
Donc, bonsoir, oui, nous sommes un syndicat étudiant, lycéen et apprenti.
Très bien. Alors, ce syndicat, moi, je ne le connaissais pas bien. C'est un syndicat CGT-CELA, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
CGT-CELA, mais qui, apparemment, a vu le jour il n'y a pas très très longtemps.
Oui, effectivement, on a commencé donc, il y a à peu près un an et demi en Ile-de-France. Et c'est un modèle qui existe déjà donc, dans d'autres endroits en France, comme dans le Nord ou à Toulouse, et qui essaye de mobiliser différents apprenants, des futurs travailleurs, mais qui aussi parfois travaillent déjà. Donc nous sommes un syndicat avant tout de jeunes apprenants.
Et alors, à quelle année il est ? Parce que j'ai vu qu'en 2018, il y avait déjà eu une réunion de ce syndicat. Il a paru donc en Ile-de-France il y a 2020, quelque chose comme
oui,
ça.
C'est...
Et puis, donc il est rattaché à la CGT, d'après ce que j'ai compris.
Alors, tous les CELA ne sont pas encore rattachés à la CGT, mais dans un certain nombre de départements, effectivement. Et en Ile-de-France, donc on a le plaisir d'être maintenant affilié à la CGT.
Donc vous êtes à Montreuil ?
Alors non.
Non, ils vous ont pas encore donné.
On est affilié en tant que collectif avec l'Union locale du 18e arrondissement.
Bon, ben, on va demander à Montreuil qu'il vous donne un bureau.
Ah là là, on serait pas contre.
Bon, alors, j'ai vu que votre syndicat a fait quand même des actions importantes, c'est-à-dire des blocages, des manifestations. Il y en a déjà eu aussi dans l'Île-de-France ?
Oui, bien sûr, oui. Donc, je vais peut-être parler un tout petit peu de nos dernières campagnes. On a été mobilisés l'année dernière avec tout un tas de groupes militants sur la question de la réforme des retraites, bien sûr. Et plus récemment, pas mal sur les questions du logement des étudiants, qui est souvent assez difficile, et les crous parfois insalubres. Et donc, on a pu mener une campagne, par exemple, à la résidence de la Pacaterie, qui a permis aux étudiants qui vivent dans des conditions absolument innommables d'être logés.
Et alors, quand vous menez ces actions, comment vous vous organisez ?
On s'organise à l'échelle de l'Île-de-France avec des groupes de communication et puis maintenant en section dans les endroits où on a un certain nombre de militants actifs, par exemple à Paris 8 ou à Saclay. Et donc on essaie de donner nos disponibilités, de faire quelques réunions pour prévoir ces actions et ensuite d'un peu apprendre sur le terrain comment aider au maximum les jeunes et défendre nos droits.
Et alors Faustine, comment vous pouvez agir aussi facilement alors qu'il y a une répression énorme envers les jeunes?
Je ne dirais pas que nous agissons aussi facilement. C'est toujours compliqué, que ça soit juste d'un point de vue organisationnel ou d'un point de vue de la répression. Jusqu'ici, on a eu assez peu de problèmes. On essaye de rester dans les cadres, mais c'est pas forcément compliqué de se mobiliser en tant que jeune, parce que même d'un point de vue purement local et plus personnel, de la part de nos établissements, de nos facultés ou nos lycées, on peut avoir des problèmes. J'ai déjà eu des problèmes pour avoir participé donc, à des actions de blocage sur mon lycée. Donc,
on va pas dire quel est le lycée.
On
ne parle pas.
Évidemment.
Mais vous avez déjà eu des soucis alors,
oui, effectivement,
avec
des histoires de convocation.
Bon, et alors, et vous, Faustine, vous êtes dans quelle classe ?
Je suis en terminale générale.
Terminale générale, donc il y a aussi, et en général, les membres, disons, de ce syndicat sont tous lycéens ou il y a aussi des étudiants ?
On a une majorité d'étudiants et on a donc aussi des lycéens et des apprentis. Et essaye aussi davantage mobiliser sur la question des lycéens et des apprentis parce que il y a un certain vide sur certaines de questions organisationnelles, surtout pour les apprentis qui ont des fois du mal à trouver des pistes.
Oui, alors malheureusement, là, oui. On va en reparler, mais comme ils doivent faire des stages professionnels plus ou moins obligatoires, là, c'est encore quelque chose qui va permettre au SNU de leur dire vous ne faites pas le stage, mais vous faites le SNU.
Il y a aussi la réforme des lycées pro à venir pour l'année prochaine, mais c'est un autre problème. Il y en a beaucoup, malheureusement.
Et alors, comment, Faustine, vous êtes venue à vous intéresser au Service national universel ? Est-ce que dans votre établissement, on a fait de la pub ?
Ah oui.
Et ça a commencé quand, cette pub ? Ça m'intéresse beaucoup parce que nous, au départ, quand on parlait du Service national universel, que ce soit les enseignants ou les lycéens, à part les syndicats et les lycéens, personne ne savait exactement ce qu'était ce SNU.
Oui, il y a toujours un certain flou qui est assez entretenu avec tout un tas de belles formules qui donnent un peu envie d'engagement. Et bah, nous, du coup, dans notre lycée, on n'a pas forcément été les plus ciblés, je pense, parce que j'ai des amis qui m'ont rapporté beaucoup plus de choses. Mais on a eu des grosses tables d'information avec des intervenants qui nous valorisaient le service national universel, l'engagement que cela permettait.
Et alors, ces intervenants, c'était quoi ? C'était des professeurs ?
Non, c'était plutôt... J'avoue ne pas savoir exactement d'où ils venaient, mais qu'il y a une table dans l'entrée de l'établissement où on nous a distribué quelques prospectus.
Alors, effectivement, Sarah Lahiri, quand elle a voulu faire la pub, parce qu'au début, quand Gabriel Attal a lancé le SNU, c'est lui qui a lancé quand même le SNU, il avait utilisé ce qu'on appelle des influenceurs sur Internet. Et puis, d'abord, il fallait les payer très cher, ça revenait cher. Et puis, certains ont dit, ah non, mais c'est pas bien d'avoir des influenceurs comme ça. En plus, ils avaient un influenceur qui travaillait surtout pour l'armée et la police, donc c'était pas très bien accepté. Et ensuite, Sarah Lahiri a eu une autre idée. Il faut que les jeunes qui ont fait le SNU aillent convaincre les jeunes qui l'ont pas encore fait. Est-ce que vous avez dans votre établissement des jeunes qui ont fait déjà le SNU et qui en parlent ?
J'en connais, ma meilleure amie l'a fait et m'en a un peu parlé. Elle n'a pas forcément été mécontente de l'expérience, mais elle m'a raconté tout un tas de choses pas forcément très adaptées dans un projet qui coûte si cher à l'éducation nationale et qui valorise tout un tas de choses assez problématiques, que ça soit du côté de la très mauvaise organisation du stage, des horaires extrêmement épuisants.
Oui, c'est ça, il commence à 6h ou 6h30 du matin, ou presque 7h. Oui. Et puis ça, c'est toute la nuit, jusqu'à 22h.
Exactement, et aussi de l'aspect formation, de choses qu'il voulait éduquer sur le consentement ou des choses comme ça qui étaient assez peu, assez peu intéressantes et assez peu suivies finalement.
Et qu'est-ce qu'elle a dit des encadrants ? Parce qu'on sait que les encadrants ont été recrutés
assez peu professionnels, à vrai dire.
Voilà, il y a eu beaucoup de militaires à la retraite ou des choses comme ça.
Il y a eu beaucoup de personnes pas professionnelles et qui aussi ont du mal à suivre ces horaires compliqués. J'ai entendu parler d'énormément de cas de violence qui sont un peu favorisés par le contexte, que ça soit entre les jeunes ou avec les encadrants.
Alors, et comment elle a supporté la Marseillaise le matin, l'uniforme, tout ça, ça l'a pas gênée ?
Ça va, non, elle est pas forcément trop gênée par ça.
Ah bon ?
Non, c'est justement comme on présente ça de manière très positive finalement, comme de l'engagement pour les autres, pour notre merveilleux pays.
Oui, alors là, effectivement, bon, ça peut...
C'est tout l'enrobage.
Oui. Et quand oui, parce que justement, ceux qui en reviennent, enfin du moins ceux qui vont faire la pub auprès d'autres jeunes, on a choisi bien sûr ceux qui étaient très contents de leur séjour. Mais il faut dire que comme on a présenté ça un peu comme une colonie de vacances, bon, on allait supporter quelques militaires, mais enfin bon, c'était pas désagréable quoi. Ceux qui reviennent, en général, ils se sont amusés, ils ont fait des rencontres, bon, mais comment vous l'avez perçu, ce service national universel ? Est-ce que vous avez perçu sa finalité ?
J'ai du mal forcément à le percevoir dans les discours publics, mais quand on commence à s'y intéresser un petit peu, on se rend compte de toutes les... justement, encore une fois, cet ami m'en a beaucoup parlé, de tous les militaires qui font énormément de propagande dans le sens d'intégrer l'armée, de s'engager également donc dans ses rangs et qui le présente sous un jour extrêmement positif. Et donc, elle-même m'a dit qu'elle était relativement intéressée et que ça ne lui paraissait pas quelque chose de particulièrement problématique.
Donc, elle est peut-être intéressée pour faire une carrière ensuite dans la gendarmerie ou l'armée.
Oui, pas forcément d'un point de vue personnel, mais en tout cas, elle n'a pas été choquée par ces propositions.
Oui, parce que ce qui se passe dans le service national universel, c'est qu'il y a cette première phase de cohésion, et ensuite il y a la phase de la mission d'intérêt général. Alors, il faut faire les deux pour être validé, SNU. Et dans cette deuxième partie, c'est un peu comme les stages. Parce qu'il y a eu quand même quelques milliers de jeunes. Ils ne trouvent pas tous une mission à faire. Alors là, les gendarmes ont développé des tas de ce qu'ils appellent les cadets de la gendarmerie, où il y a presque que des gars du SNU. Mais naturellement, ils n'ont pas la capacité de recevoir tout le monde. Alors ils ont même fait appel à des fonds privés, parce qu'ils disent la gendarmerie ne peut pas financer tout ça. Donc ils ont fait appel à des fonds privés pour encadrer, avoir suffisamment d'argent pour pouvoir encadrer tous ces jeunes, c'est-à-dire les habiller en gendarmes. Alors là, c'est les faire manger, les faire dormir, bien sûr.
Encore heureux.
Voilà. Et là, c'est comme ça que ça se passe. Et alors, parce que nous, dans l'Union pacifiste, ce qu'on a tout de suite compris, c'était que ce service national universel était surtout destiné à recruter dans la gendarmerie ou dans l'armée ou dans la réserve. Et ça, c'est très bien noté dans le rapport qui a été fait par le général Menouin, je ne sais plus trop, et qui, lui, mettait tout ça dans son rapport qui fait 50 pages. Alors, nous, justement, à l'Union pacifiste, quand on a lu ce rapport, on a dit tout de suite, ah ben, on a compris. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les rapports qui ont été faits après, parmi les jeunes qui s'étaient engagés, il y avait à peu près plus de 30% des jeunes dont les parents étaient déjà militaires ou gendarmes ou pompiers ou policiers. Et ensuite, beaucoup, dans les missions d'intérêt général, quand on les interrogeait, qui étaient allés chez les cadets de la gendarmerie, même ceux qui n'étaient pas convaincus au départ, ils disaient ben, « ça m'a intéressé, et pourquoi pas faire une carrière dans la gendarmerie ?» Alors voilà, nous, ça nous a interpellés en tant que pacifistes, bien sûr. Mais cet aspect-là, est-ce qu'il est ressenti par les jeunes ? Parce que vous me dites de votre Faustine, vous me parlez de votre copine, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui vous en ont parlé ?
Oui, cet aspect est quand même assez ressenti, mais il n'est pas forcément dominant dans ce qu'on pense du SNU, comme il y a, encore une fois, tout le côté un peu, on a rencontré du monde, on est sorti, mais il y a une idée un peu plus intériorisée, en fait, ce qui est presque pire, que oui, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est bien ce qu'ils font...
Ah oui, c'est plutôt ce que vous entendez.
C'est plus, oui, je pense que c'est plus pervers que ça. Mais oui, pareil, j'ai pas forcément parlé à beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, mais j'ai vu pas mal de témoignages de personnes qui disaient qu'ils étaient très intéressés par l'armée.
Et alors, pourquoi votre syndicat a pris position contre ce SNU ?
Parce que c'est une cause qui me touche particulièrement les lycéens et que c'est important de se mobiliser sur ces questions. C'est compliqué en tant que lycéen d'avoir des pistes pour résoudre des problèmes qui existent. Donc c'est important qu'il y ait quelques organisations qui s'y penchent.
Et alors comment ça est venu l'idée justement du syndicat CGT-CELA ? C'est bien ça, hein ?
C'est bien
CELA.
Ça, oui.
CGT-CELA, bon, parce que tous les syndicats ne se sont pas engagés là-dedans. Même les syndicats enseignants, ils commencent à y venir. Parce que ça les touche complètement.
Oui, bien sûr. Hein.
Mais les syndicats, disons par exemple votre syndicat, pourquoi il a décidé de s'engager là-dedans ? Contre le SNU, quoi.
C'est tous ces enjeux qui touchent à la fois, donc pour la question de l'émission, l'enjeu antimilitariste, mais aussi l'enjeu concret de toutes les violences qui peuvent exister dans ce cadre faites aux lycéens. Parce que c'est quand même une structure, donc, comme on a dit, avec les problèmes d'encadrement qui favorisent tout un tas de problèmes. Il y a eu des cas d'agressions racistes qui ont été reportés. Des lycéens qui se voyagent vers le SNU dans de très mauvaises conditions. C'est tout un tas de choses qui donc, concernent la vie quotidienne des lycéens. Et c'est aussi à ça que nous devons répondre, puisque nous battons pour les conditions de vie quotidienne donc, des lycéens, des étudiants et des apprentis. Donc,
Et alors, est-ce que vous en parlez dans des réunions ? Est-ce que vous avez fait des communiqués de ce syndicat ?
Notre engagement donc, sur le sujet, nous aussi, je reconnais, on a mis du temps à réagir et assez récent. Donc pour l'instant, on essaye de travailler effectivement sur tous ces enjeux d'information, de bien comprendre le projet. Et donc on essaye de se rapprocher du collectif anti-SNU en Ile-de-France qui fait un gros travail sur le sujet pour montrer qu'effectivement, il y a aussi les jeunes qui sont mobilisés sur le sujet parce qu'on a vu énormément de témoignages donc, de professeurs et tout un tas de choses comme ça, mais les jeunes sont aussi concernés, même s'il y a beaucoup d'informations à faire pour contrer toute la propagande du gouvernement sur le sujet.
Et les professeurs, effectivement, bon, ils ont réagi un peu tard, pour nous, hein, mais enfin bon...
C'est compliqué
là,
aussi.
Ils réagissent vraiment. Là, maintenant, je crois que cette année, là, ils se sont organisés, et ils se sont très bien organisés. Parce que nous, on attendait, même si on était avec une quarantaine d'organisations, hein, et puis plusieurs syndicats, plusieurs même des partis politiques. Mais ça ne démarrait pas vraiment. On faisait des communiqués, des réunions à la Bourse du Travail, des réunions entre nous, des tracts, des tout ce qu'on veut. Mais ça ne démarrait pas vraiment. Et là, cette année, ça démarre très fort. Donc, est-ce que vous pensez que... est-ce que d'abord, des professeurs vous en parlent ?
Assez peu, ils sont assez concentrés sur Parcoursup et le fait de ne pas forcément réussir à boucler le programme pour pas trop l'évoquer, mais l'année dernière c'était beaucoup plus le cas puisque c'est aussi dans pour passer le bac il est obligatoire de faire la journée d'appel.
Oui,
et avec cette journée d'appel il y a toujours ce bagage un peu SNU puisque quand on fait le SNU il n'y a pas besoin d'effectuer la journée d'appel, c'est compris dans le stage de cohésion, donc forcément, nous expliquant qu'il était obligatoire de passer la journée d'appel, il y avait toujours cette évocation du service national universel.
Oui, qui pour l'instant est volontaire, mais qui va devenir obligatoire. C'est-à-dire qu'il va remplacer...
Volontaire, mais des fois un peu poussé.
Ah, oui, complètement, un peu poussé, on va en reparler. Mais qui est fait pour justement remplacer la journée d'appel. Comment vous l'avez vécu, cette journée d'appel ?
Bon, moi, je n'ai pas encore fait ma journée d'appel, personnellement. J'ai été recensée, mais comme j'ai un an de décalage...
Moi, mon petit-fils m'a dit, ben, je dormais, donc je ne sais pas exactement ce qu'on m'a dit.
Mais tous mes amis qui m'en ont parlé m'ont expliqué que c'était des militaires qui tenaient des propos souvent extrêmement déplacés par rapport à ce qu'on leur disait. Un ami m'a raconté qu'il y avait une diapositive sur les droits des femmes et qu'ils l'ont sautée en faisant une blague déplacée. C'est des militaires qui n'ont pas grand-chose, enfin qui n'ont absolument rien à faire auprès de jeunes, évidemment, en tant que militaires, mais qui en plus n'ont aucune formation sur le sujet et donc montrent un peu ce qu'il y a dans l'armée.
Ben, effectivement, les militaires sont pas faits pour, ils sont faits pour former des combattants. D'ailleurs, le général Menahouine, qui a été choisi pour superviser ce rapport donné à Macron, il se prévalait d'avoir fait de la formation de jeunes, mais de jeunes militaires. Donc, entraînement au combat. c'était pas des jeunes pour faire la fête dans une colonie de vacances. C'était pas du tout ça. Donc, effectivement, les militaires, ils vont réagir obligatoirement avec des sanctions. D'abord, ils supportent pas qu'on ne leur obéisse pas. Hein. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu indiscipliné, ils peuvent devenir violents. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. Hein. Les militaires, c'est fait pour tuer, c'est pas autre chose. Même s'ils se disent que non, il y a plein de métiers dans l'armée. Oui, il y a des civils, effectivement, même qui travaillent dans l'armée. Mais enfin, le but de l'armée...
Pour le maintien de la paix.
Le but de l'armée, c'est quand même ça. Il ne faut pas se... Voilà. Alors, vous m'avez parlé, justement, de cette réunion du collectif Non au SNU Île-de-France. Alors, nous sommes contents parce qu'on avait fait un collectif Non au SNU en 2019. Et il y a plein de collectifs qui sont arrivés maintenant à Nancy, à Nantes, à Grenoble, à Chambéry, enfin il y en a une quarantaine, et qui ont relayé cette opposition au SNU et qui font un travail énorme en province. La chance qu'ils ont, c'est que dès qu'ils font une réunion, la presse locale vient les voir. À Paris, il ne faut pas y compter. Mais du coup, c'est repris. Et en général, et ce qui est très très bien, c'est que tous les syndicats participent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tel syndicat y est, moi j'y vais pas, etc. Non, non. Tout le monde est là. La libre pensée aussi. Alors, ils ont cet avantage, disons, en province, et ils l'utilisent beaucoup. Ce qui fait qu'on a des remontées qui sont très très intéressantes de la province. Alors nous, on était contents qu'en Île-de-France, il y ait un collectif. Et ce collectif, moi j'ai assisté à quelques réunions de préparation. J'ai été étonné, je ne devrais pas dire ça, j'ai été satisfait de voir qu'il y avait une rigueur de la préparation énorme. C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui savent organiser les choses. Et alors là, il y a une réunion justement le 18 novembre 2023 où vous étiez, Faustine.
C'est bien ça.
À la Bourse du Travail de Paris. Et ce qui est intéressant, alors d'abord, ils ont prévu ça dans la plus grande salle de la Bourse du Travail de Paris.
La salle
Ambroise Croizat.
Qui est absolument magnifique.
Moi qui ai fait un film sur la Bourse du Travail, je me suis dit, c'est la plus grande salle, est-ce que vous allez la remplir ? Bon, il y avait quand même du monde. Hein. n'était pas complètement pleine, parce qu'il y avait quand même plus de 1000 places. Hein. Mais enfin, il y avait quand même du monde.
Et qu'il y avait en parallèle une manifestation pour la Palestine qui a dû effectivement aussi rassembler beaucoup de monde.
Oui, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, à la Bourse du Travail. Alors, il y a eu de nombreux intervenants. C'était bien organisé, avec des discussions qui se succédaient. Et on va écouter d'ailleurs un peu ces intervenants. Hein, ça va nous permettre de souffler un peu. On va écouter ces intervenants. Et notamment, ça a commencé par la présentation du collectif Non au SNU Île-de-France. Alors, je vais demander à Frédéric d'envoyer la première écoute, qui fait à peu près 12 minutes, et où ils vont nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce collectif Non au SNU Île-de-France et quand c'est qu'ils se sont créés.
Le collectif Non au SNU Île-de-France est né en fait de la réaction contre le SNU Tour organisé par le gouvernement l'hiver et le printemps dernier. C'est essentiellement des Parisiens et des gens de banlieue. On a des profs, des parents d'élèves, des syndiqués, des non-syndiqués. Et du coup, après avoir bien pourri à Paris la journée SNU, on s'est dit qu'il fallait continuer. Donc nous avons continué. Et on s'était dit qu'une après-midi comme celle-ci était importante pour essayer d'élargir dans la mesure du possible le mouvement contre le SNU. Vu l'enthousiasme du gouvernement pour le développer, le propager, depuis 2 mois, les mesures avec Prisca Thévenot ou Gabriel Attal se sont multipliées et ils sont en train de passer en force pour le mettre toute une classe d'âge, toutes les secondes, quasiment, au maximum en tout cas, au SNU, que ce soit le séjour ou l'émission d'intérêt général. Pour cet après-midi, on a un peu prévu plusieurs temps. D'abord, une présentation de comment fonctionne le SNU actuellement, suivie par une présentation d'une ce qu'on appelait, nous, la cartographie, qui est les liens entre l'armée, la jeunesse et la société.
La journée va commencer par la présentation du dispositif SNU dans et hors l'école. Ensuite, un point sur les liens entre l'armée et la jeunesse, parce qu'en travaillant sur cette question-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était tentaculaire et que l'armée s'introduit partout, dès qu'elle peut, dans tout ce qui concerne les politiques jeunesse. Ensuite, on laissera la parole aux différents secteurs directement concernés par le SNU, donc des lycéens et des lycéennes, le secteur aussi des associations et l'éducation populaire qui est particulièrement touché, et ce depuis longtemps, par le SNU et qui est dans le viseur comme l'école du gouvernement. Interviendront aussi l'Union pacifiste et la libre pensée pour donner aussi un éclairage de antimilitariste, de l'engagement antimilitariste, et pour rappeler aussi des choses concernant le statut d'objecteur, parce que c'est un des problèmes aussi actuellement, c'est qu'il n'existe même pas la possibilité de faire valoir ce droit concernant le SNU. Et effectivement, il y a plusieurs tables de presse. Il y a une table de presse de la librairie Publico, il y a une table de presse de la Libre Pensée, de la CNT, des différents dessus, et puis différentes organisations qui composent le collectif. Il y a aussi, bien sûr, évidemment, Politis qui est venu. Et on les remercie tous. Et donc, maintenant, on passe la parole à Samuel et Fanny qui vont nous présenter le dispositif SNU dans son détail.
Bonjour. Alors, moi, j'ai pour première mission de rappeler les 3 phases qui constituent le SNU. Puisqu'on pense, ce qui est mis en avant par la propagande gouvernementale, c'est le séjour de cohésion de 12 jours, mais en fait il y a 3 périodes à réaliser en tout, si on va aller au bout du dispositif. Donc la première étape, c'est le séjour de cohésion qui dure 12 jours. Ensuite, il y a une mission d'intérêt général qui représente 84 heures, et ces deux premières phases sont obligatoires si on veut valider le SNU. La troisième phase est facultative, elle s'intitule période d'engagement, elle peut durer de 3 mois à 1 an. Elle concerne des jeunes de 16 à 25 ans. Alors, pour petit rappel, le séjour de cohésion, c'est 12 jours où sont présents éventuellement des enseignants pendant 3 jours maximum, mais sinon l'encadrement est essentiellement militaire, ou quand il n'y a pas de militaire, les associations d'éducation qui ont bien voulu organiser. Il y a un uniforme, il y a la levée des couleurs, il y a la Marseillaise, et il y a un encadrement pour bien redresser les jeunes. On précise que les jeunes qui sont inscrits au SNU deviennent des réservistes, et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Et le général Menaouin, qui avait conçu le dispositif, a bien précisé que ce n'est pas le séjour de cohésion qui était important, c'est le miel pour attraper, c'est le produit d'appel, et ce qui est important après, c'est la mission d'intérêt général. Le jeune peut s'inscrire dans une association, peut faire de l'économie sociale et solidaire, et tout ce qui concerne l'écologie, le sport ou la solidarité sont des produits d'appel pour attirer. Mais en fait, si le jeune ne sait pas trop où aller, on va très vite lui conseiller les corps en uniforme pour faire sa mission d'intérêt général, donc tout ce qui est gendarmerie, armée et compagnie. Et si on a fait tout cela, pour l'instant c'est pas très clair, mais il est promis une valorisation sur Parcoursup, la plateforme qui oriente vers le supérieur. Ce n'est pas encore bien défini, mais on sent qu'il va y avoir un bonus ou voilà. Donc le jeune qui n'a pas fait son SNU se verra privé de ce petit bonbon. Et puis toute une série de petits bonus aussi existent pour passer le BAFA, pour passer son permis de conduire. Récemment, ils sont sortis des réductions sur le train. Voilà, plein de petits bonus qui attirent aussi. Si on ne veut pas se contenter de phase obligatoire, on fait cette troisième phase facultative entre 16 et 25 ans. Et là, c'est vraiment de préférence dans un corps en uniforme. Voilà, là, ça veut dire qu'on est vraiment lancé dans l'aspect militaire.
Moi, je vais vous parler des deux derniers dispositifs pensés par l'Éducation nationale pour attirer les jeunes faire le SNU. Parce qu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, le SNU était un dispositif facultatif où des jeunes s'inscrivaient ou essentiellement ne s'inscrivaient pas. Il y avait deux problèmes. Premièrement, c'est que les places n'étaient pas du tout pourvues parce que personne ne voulait faire ce truc-là. Et que 40% des volontaires étaient des fils de militaires ou de flics. Bon, c'était pas exactement le projet. Et qu'il n'y avait que 2% des classes populaires, c'est-à-dire deux fois moins que dans la population française. Donc comme le SNU, a priori, ça vise plutôt les pauvres parce que le but, c'est préparer la guerre, le dispositif ne touchait pas la cible a priori. Donc la question, ça va être comment forcer les jeunes à faire ce truc, alors que c'est un peu compliqué de les forcer parce que c'est des jeunes de 15 à 17 ans, donc c'est des jeunes mineurs, qu'on peut difficilement soustraire à l'autorité parentale. Et le stage de cohésion du SNU, là où on chante la Marseillaise, c'est-à-dire du matin, on rentre dans la boucle, tout ça, ben ils dorment plus à la maison, ils sont dans des camps là, avec des gens qui les encadrent. Donc les parents pouvaient toujours bloquer. Comment forcer les jeunes à faire ce truc-là sans les forcer, parce que c'est compliqué de les forcer. Donc le premier dispositif qui a été pensé, qui date du 29 juin 2023, si mes souvenirs sont bons, c'est écrit là, c'est sur le dispositif classe engagée. Ça, c'était un coup de génie, c'était qu'au lieu de rendre les élèves volontaires, c'est que les profs soient volontaires pour rendre leurs élèves volontaires. C'est-à-dire qu'un prof peut inscrire sa ou ses classes de seconde générale et technologique ou de seconde CAP comme classe engagée. Si la classe a le label classe engagée, ça donne 1 000 euros pour l'établissement par classe. L'occasion de vous prendre un peu d'argent, parce qu'on est quand même très pauvre dans les établissements scolaires. Moi, je viens du 93, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Les budgets ont été réduits pour l'année dernière de manière hyper brutale. Donc, aller taper 1 000 euros à droite, 1 000 euros à gauche, ça permet d'avoir des stylos. Ça permet d'avoir des stylos, essentiellement, déjà. Donc, tu as 1 000 euros par classe. Il y a 1 250 euros pour le prof qui organise ça, le pacte, une part fonctionnelle, donc une indemnité de 1 250 euros pour envoyer les enfants préparer la guerre. Et en échange, la classe de seconde va aller faire le SNU, donc le stage de cohésion de 15 jours, pendant le temps scolaire, et le prof reste chez lui. Donc c'est quand même une opération où on est payé, on a de l'argent pour l'établissement, et en plus, 15 jours de vacances. Il faut être un peu solide pour résister à ce genre de sirène. Si on ajoute à ça le bonus sur Parcoursup, qu'on ne sait pas, hein, parce que essentiellement Parcoursup, la nouveauté de Parcoursup, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc toutes les trafics sont possibles, mais on sait que l'engagement, militaire en tout cas, sera valorisé. Le problème, c'est que ce montage demande la collaboration des enseignants. Enfin, il y a quand même plein d'établissements où s'il y a un collègue qui fait ça, ça va être compliqué pour la machine à café. Et en plus, le conseil d'administration doit voter pour, il suffit de bloquer, c'est pas très très compliqué. Donc il y a quand même des failles et des possibilités de résister. Donc il y a le nouveau plan de Attal, le ministre de l'Éducation nationale, qui était par ailleurs le responsable du SNU précédemment, c'est une coïncidence probablement, qui a lancé la reconquête du mois de juin. En général, quand il y a reconquête dans le titre, c'est pas bon signe. Hein. Il y a eu les quartiers de reconquête républicaine, le parti reconquête. Même si on dit en espagnol, c'est pas du tout bon signe. Donc la reconquête du mois de juin, c'était essentiellement parce que le bac était en mars, donc les élèves venaient plus au mois de juin. Donc en fait, ils ont créé un trou et maintenant ils essaient de le combler. Attal l'a annoncé il y a quelques semaines ou quelques mois, mais le projet de loi est tombé hier et sera au bulletin officiel probablement jeudi prochain. C'est que tous les élèves de seconde doivent faire 2 semaines de stage en entreprise, obligatoire. Et s'ils ne trouvent pas stage en entreprise, ils doivent faire le SNU. Ce qui rend le SNU pas obligatoire, mais le stage en entreprise, lui, est obligatoire. Donc c'est une façon de rendre le SNU obligatoire. D'autant que les stages d'entreprise, on sait très bien ce que c'est. Hein. On va chez papa, maman, tonton, tata. Mais quand on n'a pas papa, maman, tonton, tata qui a la capacité d'offrir un stage en entreprise, eh ben on va faire le bidas. Donc ce qui permet de faire un montage qui rend obligatoire pour les pauvres, les fiches de chômeurs, les gens qui n'ont pas de réseau, rend obligatoire le SNU. Ce qui est assez pratique pour le gouvernement, ceux qui vont servir de char à canon sont les bonnes personnes. Le contexte plus général du développement du SNU, parce que malgré tout, il y a une accélération délirante du SNU cette année. Le machin date de 2017, ça a barboté pendant quasiment 5 ans, avec, comme j'ai dit, des fils de bidas qui jouaient à la guerre pendant 2 semaines, c'était très sympa. Il faut voir le contexte général. La loi de progression militaire pour l'exercice 2023-2030 sur 7 ans est de 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros, je ne sais pas, ça correspond à peu près au PIB de la Belgique. Voilà, 2000 milliards, c'est le PIB de la France, donc à peu près un quart de la France, dédié aux armées sur 7 ans. Le budget pour 2023, c'est 45 milliards d'euros. L'éducation nationale, c'est 59. D'ici à 2050, il faut que le budget de l'armée, selon les prises de parole, soit entre 50 et 80 milliards d'euros. Entre 50 et 80 milliards d'euros, ça veut dire que le budget de l'armée sera très supérieur à celui de l'éducation nationale. Le seul budget qui a les moyens de lâcher un peu de thunes, qui a de l'argent, en France, c'est l'éducation nationale. On est un énorme corps, on est 1,2 million de fonctionnaires, on s'occupe de plusieurs millions d'enfants. Donc il y a beaucoup d'argent. Donc il fallait bien pas falloir payer ça. Donc on va payer ça avec le budget de l'éducation nationale.
Bonjour.
Vous êtes voilà à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Nous venons d'entendre quelques intervenants du collectif Non au SNU Île-de-France qui ont tenu le 18 novembre 2023 une réunion très intéressante à la Bourse du Travail de Paris. Alors il y avait à la fois des intervenants et Faustine, vous y étiez aussi dans cette réunion. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Est-ce que vous avez appris des choses ?
Oui, beaucoup. J'ai été très impressionnée particulièrement par la qui je crois va être numérisée, la carte des liens entre l'armée et la jeunesse et de tous les moyens que déployait l'armée pour s'implanter parmi les jeunes et recruter massivement. Il y a un travail extraordinaire qui a été mené par le collectif en mettant en lumière tout un tas de choses qui sont absolument scandaleuses et qu'on n'imagine pas et qu'on a du mal à découvrir parce qu'elles sont un peu cachées finalement.
Alors justement, cette cartographie qui était bien présentée, énorme, mais tellement riche qu'on n'a pas pu voir tout ce qu'il y avait dessus.
Ah, on s'y perd, il fallait prendre 6 photos pour la voir. C'était...
Voilà, et puis on nous a dit que de toute façon elle allait évoluer. C'est-à-dire que dans cette cartographie, il y a ce qu'ils ont découvert avec des recherches à la fois sur Internet, sur plein de choses. Ils ont découvert toutes ces relations entre l'armée et l'école. Bon, la relation entre l'armée et l'école n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis toujours, on peut dire, l'armée a essayé de rentrer dans l'école, a essayé de prendre pied. Alors, le problème, c'est que jusqu'à présent, les enseignants n'étaient pas tous d'accord pour faire rentrer l'armée. Certains acceptaient, d'autres refusaient. Ils ne pouvaient pas rentrer comme ils voulaient. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour eux. Mais ce qui était intéressant justement dans cette fameuse cartographie, c'est qu'on voyait des choses qu'on ne soupçonnait pas. Par exemple, des associations sportives, des associations de je ne sais plus trop quoi. Enfin bon, et c'est ça qui est intéressant. Alors, Ben écoutez, à ce moment-là, on va écouter un peu cette présentation de cette cartographie, puisqu'on en a parlé, et on va écouter ceux qui sont intervenus pour présenter cette cartographie. Alors là, ça fait une petite intervention d'environ 16 minutes. Frédéric, on va envoyer ça, puis on réagira après à ces personnes qui ont parlé.
Bonjour, donc voilà la cartographie des liens armés jeunesse. En faisant le travail sur le SNU et en cherchant les aspects militaires du SNU, puisqu'ils essayent de gommer cet aspect, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le SNU, loin de là. D'ailleurs, vous voyez la place qu'il occupe. Et qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui unissaient donc l'armée à la jeunesse. Et il nous a semblé important de donner corps à ça et de le montrer. Donc on a choisi cette forme-là. Là où le SNU vise une classe d'âge, comme ça a été dit, les liens armée-jeunesse, ils s'implantent de l'école jusqu'à l'université, à l'intérieur des établissements, mais aussi à l'extérieur, et pour les jeunes hors parcours scolaire. C'est d'ailleurs ce qui est visé par l'armée. Ils veulent les jeunes en décrochage, ils veulent les jeunes qui ont des difficultés, ça les intéresse beaucoup. Un point sur la légende, ce que vous voyez en rose, ce sont des personnes qui ont des fonctions de lobbyistes, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils ont des fonctions, par exemple, à l'éducation nationale, mais ils abusent de leurs fonctions parce que, par ailleurs, ils sont officiers de réserve, ils ont des accointances, en tout cas, ils ont à cœur de porter l'esprit de défense. Donc voilà. En orange, ce sont des structures qui ont été créées pour faire du lien armée-jeunesse, typiquement le SNU. Et puis il y a des structures donc en jaune qui sont des structures infiltrées par l'armée, mais qui à la base n'ont absolument rien à voir avec l'armée. Et en rouge, ce sont des structures ou des dispositifs qui sont purement militaires et faits par des militaires. Tout ce qui est sur la carte est en lien avec le ministère des Armées. Il faut savoir que on n'a pas personnifié le ministère des Armées. Le ministère des Armées, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est en tenue camouflage. Hein, on s'est embêté à faire cette peinture voilà, merveilleuse. Parce qu'en fait, il y a tout ça donc, qui est en lien avec le ministère des Armées. C'est une carte V1, donc première version, parce que c'est loin d'être exhaustif. Jusqu'à hier, on trouvait encore des liens, des choses, des dispositifs. Ils en ont, mais à foison. Donc l'idée, c'est que d'autres s'emparent de cette carte et qu'on voit comment on peut la transposer. Comment on peut la faire vivre et la faire évoluer. Donc, ça sera dans la deuxième partie, sur les perspectives. L'idée, c'est qu'on puisse en faire quelque chose et qu'elle ne s'arrête pas là. Eh bien, je vais passer la parole à Jean-Marc, qui va nous faire une petite présentation.
En 1996, lorsque Jacques Chirac annonce la professionnalisation de l'armée, on est nombreuses à espérer la fin du service militaire obligatoire, mais ça n'est pas le cas. En fait, la loi de 1997 ne va faire que suspendre ce service militaire obligatoire, et la loi permet explicitement son rétablissement, soit pour des raisons militaires, soit seulement sur des objectifs assignés aux armées. En fait, la loi de 1997, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les obligations militaires. Elle les transforme sur quelque chose qui va devenir institutionnellement une obligation qui a l'air plus ou moins d'être, on va dire, plus cool en apparence. Le parcours de citoyenneté. Le parcours de citoyenneté, il comporte trois aspects. Il comporte, d'une part, le recensement obligatoire en mairie. D'autre part, la journée de citoyenneté obligatoire pour tous les jeunes. Et enfin, l'enseignement de défense. L'enseignement de défense, ça a l'air comme ça de mêler deux choses qui nous choquent, c'est-à-dire en gros l'éducation et l'armée. Je pense qu'il faut prêter une petite attention à la sémantique de cette formule. C'est bien l'enseignement de défense. C'est-à-dire que formulé comme ça, il s'agit d'un enseignement qui est en soi une activité militaire. Du coup, comment ils vont faire pour vaincre les résistances au lien entre l'armée et la jeunesse? La première idée qui leur vient, elle est simple et brutale, comme l'armée, à savoir, on prend un recteur ou une rectrice d'académie et avec évidemment tous ses subordonnés, ce qui fait du monde, et un général ou une générale des armées, et on leur dit « vous bossez ensemble ». Mis comme ça, c'est une version qui risque de susciter trop de réactions. Du coup, c'est là qu'ils font intervenir une nouvelle entité qui va avoir comme effet d'essayer de passer un peu plus discrètement. En fait, ils vont faire intervenir des intellectuels, ce qui est plus présentable, dans un institut, qui est plus présentable aussi, l'IHEDN. L'IHEDN, l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale. C'est fait d'universitaires, de sommités intellectuelles, qui ont beaucoup de moyens et qui vont faire des formations et des débats auprès de plein de personnes qui sont civiles, beaucoup plus présentables. Ça passe mieux avec des civils qu'avec des uniformes, mais ça fait quand même passer les idées. Et en fait, cette IHEDN forme plein de gens qui vont donc devenir des auditeurs de l'IHEDN. Et ensuite, ils continuent de structurer. Ils font une association nationale et des associations départementales des auditeurs de l'IHEDN. Et c'est le point clé. Ce point clé, ça permet de former des gens à l'idéologie militaire, tout en étant sous la coupe à la fois d'un recteur d'académie et d'un général des armées. Et ces trois ensemble, recteur, général, association locale de l'IHEDN, forment les trinômes académiques, qui existent depuis longtemps, qui semblent relativement discrets, mais qui pourtant font une action de fond depuis très longtemps dans le but de défendre et de développer les liens armés. Ces actions, essentiellement, c'est de la formation auprès des personnels, de la formation auprès des élèves, pour que tout le monde accepte les idées de l'armée. La loi de 97 va faire passer l'éducation à la défense, c'est-à-dire plein de points sur l'éducation qui s'immisce à l'intérieur du programme. Et puis, on va avoir, par exemple, les classes de défense et sécurité globale, où, pour donner un exemple, un prof de français qui se dit « mais qu'est-ce que je vais avoir à faire avec ça ?» Ben, il va faire une correspondance épistolaire entre ses élèves de collège ou de lycée et une armée en action. Et autre chose de ce genre-là, les cadets de la défense, qui vont, par exemple, eux, être des partenariats entre plusieurs collèges et lycées d'un même secteur géographique, et qui vont amener des élèves de ces établissements à aller directement dans des unités militaires en manipulant des armes.
Moi, je vais vous parler de ce qu'on a appelé mieux connaître la jeunesse. C'est un peu l'obsession de l'armée. Mieux connaître la jeunesse, ça permet de mieux l'infiltrer et d'être au diapason pour aller au bon endroit, au bon moment. Donc, ça, c'est une quête qu'ils ont depuis très longtemps. Ils ont créé ce qu'on appelle la commission armée jeunesse. Ils vont s'inspirer de structures qui connaissent la jeunesse, puisque la commission armée jeunesse est composée de 101 structures. Elle existe depuis 1955. Il y a 38 associations et mouvements de jeunesse, 8 mouvements étudiants, 11 syndicats. Donc ça laisse assez perplexe. Les noms sont là, on a la liste. C'est assez intéressant et assez édifiant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes de travail tous les mois qui se réunissent. C'est le ministère de l'Armée qui pilote tout ça, puisque la commission armée jeunesse dépend complètement du ministère des Armées. Et donc, ces gens-là, dont des associations très connues, même dans l'éducation populaire, vont travailler sur des groupes de travail, inspirer l'armée pour leur dire, bah voilà, voilà ce qu'aiment bien les jeunes, voilà ce qu'on pourrait faire. Et ils font des préconisations qui servent après pour mettre en place des vraies choses qui sont mises en place. Et en échange, l'armée leur permet d'aller visiter des sites militaires, de faire des conférences sur l'armée, etc. Donc ça, c'est chaque mois. Et par exemple, il y a un groupe de travail a rendu un rapport là en 2022-2023 qui est « Quelle est la perception de l'engagement militaire chez les jeunes éloignés des enjeux de la défense ? Comment intéresser ces jeunes au sujet de la défense, voire à un engagement dans la défense ?» Et donc, de là, ils ont eu la bonne idée de dire, bah tiens, il y a le SNU, il y a les réseaux sociaux, il y a les commémorations. Donc, le 11 novembre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a énormément de jeunes qui ont participé. Ce n'est pas un hasard. C'est un travail de l'armée qui s'est immiscé dans plein de choses pour que ces jeunes fassent ces visites mémorielles et ces commémorations. Pour mieux connaître les jeunes, il faut savoir que le général Menaouin, qui est le premier rapporteur du SNU, avait également lancé une enquête via la JDC, où 45 000 jeunes ont répondu, et via les lycées, à l'intérieur des lycées, le général Menaouin a fait une enquête aussi pour les connaître. Donc 30 000 jeunes ont répondu à cette enquête. Là, je vais vous parler d'un autre exemple. C'est ce qu'on appelle le CPAD, Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense. Ils ont 15 millions de photos, ils ont des centaines de films, ils ont un fonds d'archives assez extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une enseignante détachée de l'éducation nationale qui pompe des projets pédagogiques à l'intérieur de ce truc qui est purement militaire. Cette CPAD, donc, a par exemple, dernièrement, il y a un prof d'histoire qui s'est dit ben moi j'habite dans une ville, tout ça, il y a eu la guerre, je vais faire un truc. Donc il trouve des photos super sur un militaire, tout ça, bon bref. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il l'a pris dans ce fond-là. Et qu'est-ce qu'a fait le CPAD derrière? Ils l'ont invité à des séminaires de l'armée, ils ont fait tout un tas de choses. Et un jour, il s'est retrouvé à un séminaire, il a bien compris qu'il y avait beaucoup d'uniformes pour faire ce projet. Et là, il s'est rendu compte, et d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il était pris dans un truc qu'il n'avait même pas imaginé. Et donc il y a beaucoup d'enseignants qui risquent de se retrouver dans des projets comme ça, qui sont en fait faits par des militaires pour toujours infuser l'esprit de défense et travailler là-dessus. Donc ils sont très forts pour ça. Un autre exemple, c'est le prix éco-délégué. Donc il faut savoir que l'écologie, ils ont compris que c'était un grand intérêt pour la jeunesse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le prix éco-délégué, comme ça, ça ne mange pas de pain, on ne voit pas le rapport avec les militaires. Le prix éco-délégué, il s'avère que Coralie Noël, elle est haute fonctionnaire à l'éducation nationale, à l'écologie et à la transition. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais moi, en fait, j'adore l'armée. Et d'ailleurs, j'ai fait la formation à l'IHEDN et j'adore l'esprit de défense. Oh, je fais de l'écologie et de la transition, ça intéresse les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans son prix éco-délégué, elle a rajouté une petite phrase dans les règlements de l'année dernière. Elle a dit, tous les établissements relevant de la défense peuvent candidater aussi sur ce prix. Et donc, c'est une façon, en abusant de sa place, d'infuser l'esprit de défense là où elle peut. Et ça, c'est pas visible. C'est-à-dire que c'est des choses, si on va pas scruter dans le règlement, on ne le voit pas. L'UNSS, l'Union Nationale du Sport Scolaire, donc c'est des professeurs de PS, organise notamment le cross départemental, qui a lieu là d'ailleurs dans pas longtemps. Plusieurs départements font des alliances avec des bases militaires. Donc ça se passe sur des bases militaires, c'est encadré par moment par des militaires. Et c'est souvent aussi à l'invitation de colonels et de généraux. Donc ça s'est fait dans plusieurs départements, donc il faut être attentif à ça. Et une dernière chose qui est peu connue, c'est la part collective du pass culture. Le pass culture, on connaît la part individuelle, donc les jeunes qui ont une somme et tout. Il y a la part collective. La part collective, c'est quoi? C'est chaque établissement a une somme allouée par jeune. Donc c'est en 20 à 30 euros selon le niveau de classe. Il s'avère que la part collective a été étendue au 6e et 5e pour cette année. L'armée compte sur cette part collective pour organiser des visites mémorielles et des choses sur des bases militaires. Elle l'a déjà fait, elle sait que ça existe. Et en fait, il faut savoir que la DGESCO sait très bien aussi que l'armée se sert de ce dispositif pour payer des sorties et des visites. Donc voilà, et ça c'est typiquement des choses qui ne sont pas prévues pour, mais il faut savoir que c'est accordé pas par imposition des mains, c'est qu'il y a un article dans la part collective du pass culture qui dit que les lieux mémoriels et les lieux de défense sont éligibles à la part collective du pass culture. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est des choses détournées parce qu'il y a ces personnes qui sont souvent des officiers de réserve par ailleurs qui en profitent pour mettre là où ils peuvent de la défense et du militaire.
Moi, je fais un point sur la formation qui va corroborer des choses qu'Aurélie a dites. La formation des enseignantes. L'idée, c'est, comme Aurélie l'a dit, c'est d'infuser sur le long terme. Et ce qui a été constaté par des spécialistes d'éducation, c'est que le public enseignant
est particulièrement rétif à l'introduction de l'idée de défense dans les enseignements et dans l'école. Donc il faut prendre le temps et il faut infuser par plusieurs biais. Alors je vais pas m'attarder, mais présenter quand même Sébastien Jakubowski, qui est un qui est le recteur de l'Académie de Lille et qui est un peu une star de conférence pour présenter les façons d'intégrer la défense dans nos enseignements. Je suis enseignante. Et le DGESCO Édouard Geffray, donc DGESCO c'est le bras droit du ministre, hein, le directeur général à l'enseignement scolaire, il a intégré dans le schéma directeur de la formation des enseignants la notion d'éducation à la défense. Donc dans ce schéma directeur, il y a plusieurs en-têtes importantes, comme les valeurs de la République, la laïcité bien sûr, liberté des droits fondamentaux et égalité des droits, et s'ajoute à cela, au même niveau, l'éducation à la défense. Dans l'INSPE, hein, l'Institut National des Formations des Professeurs, où œuvre particulièrement donc, le Sébastien Jakubowski, il est dit que la formation à l'enseignement de la défense doit être intégrée dès la formation initiale. Et on peut venir à EducaDef, avec un joli petit arrobase. C'est un site numérique où sont collectées toute une quantité de ressources très bien faites, très accessibles. Donc c'est à la fois pour les enseignants qui vont trouver du matériel pour parler de la défense, mais c'est aussi pour le grand public. Et c'est accessible, c'est joli, c'est sympa, tout est sympa, donc ça donne envie de faire.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Faustine. Faustine, qui fait partie du syndicat CGT-CELA et qui est venue justement nous parler du SNU. Alors, elle a écouté, bien sûr, elle était présente à la Bourse du Travail, où il y avait tous ces intervenants, c'était très vivant, hein, il y a eu des questions par la suite et tout. Et justement, vous avez parlé, Faustine, de cette fameuse cartographie, qui vous a assez impressionné. Pourquoi ?
Parce que c'est tout un tas de choses qu'on n'imagine pas du tout et auxquelles on n'a pas trop accès. Forcément, le gouvernement n'en fait pas la promotion. mais
de la présence de l'armée.
Oui, effectivement, oui. Pourtant, l'armée est présente à l'école. Enfin, je voulais citer justement une journée d'orientation qu'on a eue récemment organisée par le lycée où des étudiants de différentes facultés venaient nous présenter un peu leur formation, ce qui est très bien, très intéressant. Et on avait un stand de la gendarmerie et de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine qui venaient nous expliquer joyeusement qu'on pouvait faire des petits stages, intégrer la réserve, s'engager. S'engager, c'est un très beau mot, mais... Donc, pour revenir à la question de la cartographie, c'est des choses qu'on n'imagine pas forcément, mais qui, quand même, finalement, sont présentes.
Oui, parce que finalement, l'armée a beaucoup de mal à recruter. En plus, comme c'est une armée qui n'est plus une armée de conscription, les militaires signent des contrats de 5 ans. Beaucoup, presque le tiers, abandonnent au bout de 3 ans. Ils sont d'ailleurs considérés comme des déserteurs, hein, quand ils sortent de l'armée, même. Ce n'est pas un licenciement. Ils ont cassé leur contrat, ils sont considérés comme déserteurs. Mais enfin, on ne les met pas en tôle. On les met en tôle. Mais du coup, comme il y en a beaucoup qui s'en vont, ils sont obligés sans arrêt de renouveler. Et là, effectivement, on s'est rendu compte comment, disons, dans le s'approcher des jeunes, c'est très difficile pour eux. Bon, je donne un autre exemple, c'est le nucléaire. Bon, les gens du nucléaire sont désespérés parce qu'ils disent « Oui, les jeunes, ils sont tous anti-nucléaires, on ne peut pas les approcher. » Les militaires disent la même chose. Donc, dès qu'on leur offre une possibilité, ils étaient même mis à un moment donné dans les centres commerciaux où ils essayaient de mettre des stands dans le centre commercial, mais personne ne s'arrêtait. Donc, rentrer dans l'école pour les militaires, c'est formidable. En plus, le service national universel, c'est l'idéal pour les militaires. C'est pas financé par le ministère des armées, c'est financé par le ministère de l'éducation nationale. Et ça coûte un peu cher quand même au ministère de l'éducation nationale.
Qui pourrait aider à nous donner des meilleures conditions de travail.
Et voilà. D'ailleurs, c'est une des demandes des syndicats, notamment nous quand on a travaillé au tout début avec le syndicat solidaire et qui nous ont fait les tracts, il y avait ce problème du financement. Bon, nous, c'était l'antimilitarisme. Mais le financement joue beaucoup pour les syndicats, parce qu'ils se disent, mais attendez, on dépense énormément d'argent pour ce service national universel qui sert à rien, qu'à recruter dans l'armée, ils ont qu'à investir, eux, s'ils veulent recruter. Et c'est pour ça. Vous le percevez comme ça, vous aussi. C'est votre point de vue maintenant que vous êtes plus au courant du SNU.
Oui, oui, bah, on s'en rend davantage compte. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un gros enjeu d'information qu'on doit mener, d'aller beaucoup parler avec nos camarades ou même dans des actions militantes pour aussi évoquer tous ces problèmes. Parce que comme je pense qu'on est une génération qui n'a pas forcément trop connu de guerre, on a du mal des fois à se représenter tout ce que peut représenter l'armée aussi. C'est quand on ne connaît pas, on a du mal à voir. Et après, comme vous le dites, c'est
heureusement que vous n'avez pas connu la guerre.
Ah ça, oui.
Heureusement que vous avez même parfois des parents qui n'ont pas obligatoirement vécu la guerre. Nous, on en a eu de ma génération. Attention, j'ai 80 ans, alors j'ai connu ça. Non, j'ai pas connu, enfin j'ai suivi, mais mes parents avaient connu la guerre. Donc il y avait quelque chose qui passait auprès des enfants. Aujourd'hui, c'est plus rare et on comprend très bien que les enfants, heureusement, ne sont pas au courant de tout ça et ne s'y intéressent pas forcément. Mais c'est pour ça que, comme vous dites, c'est que, Faustine, c'est qu'il faut quand même faire de l'information. Alors, qu'est-ce que vous allez préparer avec votre syndicat CGT, c'est là. Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Je pense qu'on va d'abord essayer de mener un travail aussi de formation, nous, pour aussi être au courant de ces enjeux, parce qu'il y a tout un tas de points qu'on s'en est rendu compte le 18 novembre à cette réunion publique qu'on n'avait pas forcément assez bien considéré et qui, grâce au collectif SNU et anti-SNU, pardon, et son travail, on a pu voir. Donc l'idée, ça va être de nous être bien au point sur ces questions et d'ensuite faire passer l'information à tous nos camarades et à toutes les personnes qui sont un peu tentés par le SNU, un peu tentés par l'armée. Essayer de mettre en valeur tous ces enjeux, parce que, par ailleurs, les jeunes sont assez engagés de manière générale contre la guerre, pour citer la situation actuellement en Palestine. C'est des choses qui nous touchent, mais à l'échelle française, par rapport à ce que fait notre gouvernement, on ne sait pas forcément trop comment articuler la lutte, comment se mobiliser. C'est compliqué en tant que jeune. On est un peu perdu des fois.
Il faut dire que Macron, même quand il était candidat, il n'était pas encore président, il avait prévu d'augmenter la réserve. Or, la réserve, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu en Russie, hein, quand ils ont eu besoin de soldats, ils vont les chercher dans la réserve. Où ils peuvent faire pendant une année rien du tout, ou deux années rien du tout, et puis quand il y a un conflit, on va chercher dans la réserve. Et Macron avait déjà dit, avant même qu'il soit président, qu'il allait doubler la réserve. La réserve, ça fait... je crois 40 000 personnes, et ils voulaient le doubler. Et justement, le SNU, ça fait partie des objectifs du SNU, c'est de faire rentrer le maximum de gens dans la réserve. Alors là, effectivement, les jeunes, malheureusement, ne savent pas ce qui les attend quand ils rentrent dans la réserve. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc, ce 18 novembre 2023, il n'y a pas très longtemps, à la Bourse du Travail, avec ce fameux collectif non au SNU Île-de-France, qui s'était appelé d'abord Région Parisienne, puis après ils ont changé Île-de-France, c'est que des jeunes se sont exprimés, comme vous, Faustine, ce soir. Des jeunes se sont exprimés. Alors, on va les écouter, parce que c'est très important ce qu'ils ont pu dire, étant donné qu'ils ont parlé à la fois... Ils représentaient certains des syndicats, je crois, mais ils ont exprimé un peu ce qu'ils avaient vécu et leur prise de position. Alors, on va les écouter, ces jeunes qui s'expriment.
Donc, Charlotte, pour les lycéens et les lycéennes.
Donc, bonjour. Alors, déjà, on est très contents de pouvoir être ici pour discuter justement de notre vision... On a du SNU. Tout ce processus qui est vraiment partout, soit dans les discours des proviseurs, dans les mots qu'on va nous faire passer. Il y a tellement de mots qui sont utilisés pour parler du SNU, qui sont des mots qui sont connotés très positivement, que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, en fait, de déconstruire cette vision du SNU quand on nous parle d'engagement, qu'on va parler de plein de choses, d'égalité, d'écologie. Tout le monde s'en est rendu compte ici. Enfin, le SNU, c'est pas de l'engagement, c'est plutôt de l'embrigadement. Et en fait, vouloir apprendre aux élèves à obéir aux ordres, à savoir être bien discipliné, c'est quelque chose que veut transmettre le SNU aux jeunes, mais c'est aussi quelque chose qu'on voit même dans ce qui est de plus en plus voulu par, par l'éducation nationale dans, dans la manière dont, voilà, dont on va être traité, que ce soit dans, dans les programmes, dans les enseignements. Et en fait, dans l'institution scolaire, ce qui va vraiment être prôné, c'est le respect de l'ordre, le respect de l'autorité. Attention aux élèves qui voudraient sortir du rang, qui seraient indisciplinés, qui voudraient remettre en question les réformes hein, qui passent d'année en année, qui précarisent toujours de plus en plus nos filières, nos conditions d'études, et même tous ceux qui voudraient en fait remettre en question de manière générale le fonctionnement de l'institution scolaire. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est, enfin de manière générale, hein, très mise en avant par, par l'institution, qui veut vraiment, par tous les moyens, faire respecter aux élèves l'ordre, la discipline. Et donc c'est ça aussi qu'on a vu l'année dernière, hein, au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, mais aussi contre la réforme du lycée professionnel, où en fait les lycéennes et les lycéens qui s'engageaient étaient en permanence intimidés, il y avait des discours très paternalistes, et puis aussi bien évidemment matraqués, fichés par les établissements. Et c'est vrai que c'est très ironique de voir que de l'autre côté ils utilisent et ils récupèrent toute une sémantique très positive de l'engagement pour mettre en place leur, leur séjour SNU, donc embrigadement, respect de l'armée, de l'autorité, de ce que même disent les gens qui les ont vécus. Hein, c'est pas vraiment apprendre à connaître l'autre, c'est plutôt faire des punitions collectives avec les autres, c'est plutôt respecter l'autorité, comprendre à quel point l'armée est extrêmement importante. Attention, surtout, beaucoup chanter la Marseillaise et avoir un respect très très profond pour le drapeau français. Je ne sais pas si c'est forcément cohérent avec ce qui était à la base prôné dans les mots qu'ils utilisaient à la base. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler vraiment d'engagement quand c'est utiliser les élèves pour faire passer leur propagande militaire. La précarité qu'eux-mêmes mettent en place dans leur politique libérale, ils la récupèrent pour faire du chantage aux jeunes et les forcer à faire le SNU. Donc, par exemple, ils vont proposer aux personnes qui vont faire le SNU d'avoir des trains gratuits pendant un mois. C'est vrai que casser la filière professionnelle, nous mettre en compétition, pas nous mettre de place dans le supérieur, avoir des conditions d'études très très compliquées, c'est pas du tout ça qu'il faut pallier. Et justement, on va plutôt utiliser le fait que les lycéennes et les lycéens sont précaires et vivent dans des conditions difficiles pour leur dire, attendez, on va vous donner une petite miette de gâteau si vous acceptez de faire 2 semaines où vous allez apprendre à respecter l'ordre, la discipline. Il n'y a pas assez de place dans le supérieur, mais potentiellement, si tu fais ton SNU, on ne sait pas, peut-être que tu auras un petit peu plus de chance d'avoir une place dans la filière que tu veux. C'est vraiment, tout est dans la surface, tout dans le superficiel. C'est sur une journée défense, citoyenneté, enfin je ne sais plus trop le terme, mais on me racontait en fait qu'il y avait c'était les militaires qui faisaient la formation, et ils étaient un peu en train de découvrir le PowerPoint en même temps en fait que les jeunes qui étaient là. Et je crois qu'à un moment sur le PowerPoint il y avait des trucs sur égalité homme-femme et tout, et ils ont vraiment dû faire genre de blagues. Oui bon, enfin ça on vous le montre, mais bon, je veux dire c'est parce qu'on doit le montrer, hein, c'est pas trop comme ça à l'armée. Et on peut se dire c'est un militaire, et puis l'autre il a rigolé, il a dit bon c'est vrai que bon voilà, c'est pas trop nous, mais donc on voit bien que voilà, c'était pas forcément eux ce pourquoi ils étaient là. Mais en tout cas, c'est vrai que de manière générale, quand on voit la manière dont ils nous empêchent, dès qu'on va organiser une AG, un blocus, qu'on va essayer en fait de montrer notre opposition à l'institution scolaire ou aux réformes libérales qu'ils essayent de passer, voilà, ils vont nous ficher, mettre des conseils de discipline plusieurs mois après pour les élèves qui se sont engagés, qui se sont mobilisés. Mais voilà, ils vont réutiliser l'engagement pour dire non, on veut absolument que les élèves s'engagent. Ils mettent aussi en place plein de petits conseils lycéens pour dire que les élèves sont vraiment acteurs des décisions qui les concernent. Alors que vraiment dans ces conseils-là, il y a trois lycéennes lycéens qui vont donner une petite idée et de l'autre côté, il y a l'institution qui va faire « Ah d'accord, c'est vraiment super, bah, c'est pas ce qu'on va faire, mais vraiment merci d'être là pour qu'on puisse légitimer le fait qu'on vous demande en fait jamais votre avis. » Je suis pas sûre qu'on ait trop envie d'être des jeunes lycéens très disciplinés qui respectent l'ordre et qui jamais se mettent en opposition avec ce qu'ils entendent.
Parole à Marine et Aurore pour l'éducation populaire et Jean-Baptiste qui va nous livrer un témoignage de quelqu'un qui a vécu le SNU.
Bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on va vous parler du SNU dans nos secteurs respectifs. Pour moi, ça sera l'associatif, pour Jean-Baptiste aussi. Et Marine, ça sera pour les personnels du ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors tout d'abord, il faut bien réexpliquer que les associations sont censées être indépendantes, mais comme elles vivent majoritairement grâce à des subventions publiques, elles ne le sont pas forcément. Et ce qu'a fait Macron depuis sa première élection, c'est de diminuer les subventions aux associations et de passer de subventions de fonctionnement à des subventions projet, appel à projet annuel. Donc ça précarise énormément les associations. Et les associations qui osent dire publiquement qu'elles ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement savent qu'elles s'exposent à la perte ou à la diminution de leurs subventions. En parallèle de la baisse des fonds pour les subventions aux associations, on voit que l'État était capable de débloquer 3 milliards d'euros pour le SNU. Les associations d'éducation populaire, au lieu de s'organiser collectivement et de dire non à la mise en place du SNU, il y a eu du dumping entre les assos pour devenir prestataire de l'État et proposer soit l'allocation de leurs infrastructures, soit l'encadrement de sessions de SNU, soit la mise à disposition d'animateurs. Et il y a aussi la promotion du dispositif et un peu le changement de paradigme avec les associations d'éducation populaire qui commencent à faire de la pub pour l'État, pour le ministère de la Défense. Moi, par exemple, je travaille à la Ligue de l'Enseignement et du coup, j'ai l'honneur d'être dans une asso qui est et à la Commission Armée Jeunesse et qui fait la promotion en interne de l'IHEDN qui ont été présentés tout à l'heure pour former les cadres de direction. Et donc, petit à petit, on voit que dans les projets que nos collègues mettent en place dans les territoires, il y a des projets sur les commémorations, l'armée. Et c'est des projets avec le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense, avec Dassault, avec Safran. Ça s'étend à plein d'autres associations et ça ne pose plus trop de questions. Voilà, ça ne choque plus, ça ne scandalise plus. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui a été encadrant pour le SNU et qui va témoigner du coup des conditions de travail.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant 2 semaines, on m'a vouvoyé, on m'a appelé monsieur parce que du coup, j'ai été encadrant d'un service national universel. Et le point que j'aimerais qu'on retienne, c'est que structurellement, le SNU est facilitateur de violence à l'égard des jeunes qui y participent, notamment à cause des conditions de travail. Des encadrants et des encadrantes. J'étais donc tuteur de maisonnée, ça s'appelle comme ça. On a une douzaine de jeunes de 16 ans sous notre coupe. Et pendant 12 jours, avec un séjour de 200 personnes, oui, le rythme de vie est extrêmement fatigant et cette fatigue est facilitatrice de violence. Notamment, c'est des journées de 6h30 à 22h30 pour les jeunes. Mais quand on est animateur ou animatrice, ça veut dire qu'après, on a des réunions d'équipe, et ça veut dire que si on doit lever les jeunes par exemple à 7h, on doit se lever un quart d'heure, une demi-heure avant. Et donc oui, le rythme de vie épuisant des services nationaux universels facilite les violences. Notamment, on a 50% des jeunes qui estiment que l'emploi du temps est trop chargé, on en a 51% qui estiment qu'ils n'ont pas assez de pause au sein du SNU. Et donc, jeunes fatigués plus encadrants fatigués, oui, ça facilite les violences, et c'est de là qu'on peut voir qu'à Strasbourg, il y a des punitions collectives, que dans le Nord, ils font faire des pompes, ou que partout ailleurs, il y a des violences sur les jeunes, notamment à cause de cette fatigue. en plus d'un cadre fatigant, on a des encadrants et des encadrantes qui sont pas ou peu formés. C'est-à-dire, en colonie de vacances, on peut avoir jusqu'à 20% d'encadrants non formés. Eh bien, le cadre légal du SNU est modifié, ce qui fait qu'au SNU, on peut avoir jusqu'à 40% d'encadrants et d'encadrantes pas formés. Le tout fait un cocktail un peu explosif qui facilite les violences sur les jeunes. En plus de ça, on a des collègues militaires à nos côtés dont ce n'est pas le métier d'encadrer des séjours de 12 jours. Et tout cela fait un cocktail explosif. Et ce que vraiment je voudrais que vous reteniez, c'est que le tout est structurellement facilitateur de violences aux mineurs. On peut le voir de l'intérieur, on peut le voir avec les chiffres. Et donc pour ça, jusqu'au bout, on se battra contre le SNU.
Je travaille au sein des services de l'État qui mettent en place le SNU. Donc c'est la charge du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a été aspirée il y a peu par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour compléter ce qui a été dit, moi je pensais à deux points. C'est le premier point, ça sera le fait que le SNU devienne en fait l'alpha et l'oméga des politiques jeunesse en France. Et le deuxième point, c'est la culture du secret qui est organisée, et notamment jusque dans les sphères de l'État. Le SNU, en plus d'être de l'argent monumental, c'est aussi en fait des objectifs monumentaux qui pèsent en fait à tous les niveaux, et notamment sur les équipes et les agents et fonctionnaires qui doivent mettre en place ce dispositif. On est sur un engagement qui est obligatoire, donc c'est totalement contraire à ce que doit être l'engagement, qui est un engagement libre normalement. Et donc ça a un impact sur tout ce que sont les politiques de jeunesse et tous les autres dispositifs qui existent. Concrètement, l'État dit à des assos, si vous ne mettez pas en place le SNU, les subventions elles vont sauter, ou alors elles vont diminuer. Ça, c'est concret et c'est régulier. Les agents, en fait, la pression elle est telle que normalement, à la base, il y avait trois personnes qui travaillaient sur le SNU, et après on demande à tout le monde de travailler sur le SNU. Donc ça pressurise tout le monde. On a des agents qui sont en souffrance, on a des agents qui sont en arrêt maladie, etc. etc. Donc on a en fait un SNU qui prend toute la place, et au niveau de l'argent, et au niveau des équipes, et au niveau de l'impact que ça a avec les assos, avec les partenaires. Et on a des personnels et des fonctionnaires qui n'ont plus le temps de développer leur autre mission, et notamment des choses qui sont très importantes et de ce qu'on appelle les missions régaliennes, notamment l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des accueils collectifs de mineurs. Donc tout ce qui est centre de loisirs, colo, c'est fait au détriment en fait de la sécurité de beaucoup de personnes, et notamment de mineurs, parce qu'on a le spectre du SNU qui prend toute la place. Voilà, et l'autre point dont je voulais vous parler, c'est cette culture du secret, parce que concrètement, on demande à toutes les personnes qui travaillent sur le SNU, et notamment les fonctionnaires et les fonctionnaires d'État, qui normalement doivent être neutres, on leur demande de fermer leur gueule. Excusez-moi d'être vulgaire, mais en fait, on leur demande de se censurer et de ne pas remonter les dysfonctionnements, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements, ça a été dit, il y a beaucoup de violences. On sait que notamment il y a eu des violences sexistes et sexuelles, il y a eu des propos discriminants, notamment racistes, homophobes, etc., etc. Et en fait, on empêche la remontée de ces informations. On demande aux équipes, notamment en charge du SNU, de ne pas parler à la presse, et on demande à tous les retours d'expérience. En fait, quand il y a des choses qui sont un peu trop violentes, qui sont écrites, elles sont barrées, elles sont supprimées dans les infos qui remontent. Donc c'est très contradictoire. Et en plus, le SNU, il faut savoir que c'est des séjours qui sont organisés par l'État et en même temps contrôlés par l'État. Donc il y a un problème. C'est pas comme tous les autres séjours qui existent. Donc vous voyez bien que la remontée des problèmes est déjà contradictoire. Dans les hautes sphères de l'État, ils sont au courant, puisque ça nous arrive d'aller rencontrer les ministres et notamment la secrétaire d'État. On lui a fait l'état notamment du fait qu'on était muselés, censurés à tous les niveaux, au niveau associatif, au niveau des acteurs et des professionnels, mais au niveau des fonctionnaires. Et en face, la réponse, elle est nulle, quoi. Elle est un peu montée sur ses grands chevaux. Elle nous a dit « Ah bon ?» Enfin, elle a fait son numéro. C'était nul. Et elle nous a dit « Ah, mais moi, je veux avoir les noms des gens, etc. » Et quand on lui dit non, mais on peut pas le faire, parce que vous demandez à vos fonctionnaires de ne pas parler, et après, ils savent, mais ils s'en foutent. Voilà. Donc tout est organisé pour que le SNU puisse continuer à être un système totalement autoritaire et violent et délétère.
Et du coup, pour conclure, nous, on se bat dans nos collectifs de travail, en plus de ce collectif, mais aussi beaucoup via nos syndicats. C'est le fait d'avoir des mandats syndicaux qui nous permettent de pouvoir s'exprimer librement dans nos assos, dans les ministères, pour les collègues profs, dans leurs écoles. Donc déjà, merci là à tous les camarades du MNL, de la CNT, de la CGT et pour nous de Solidaires. Et c'est très important pour nous que vous, en tant que parents d'élèves, en tant que citoyens, en tant qu'adhérents d'associations ou membres de conseils d'administration d'associations, vous fassiez aussi passer le message que vous êtes contre le SNU. Parce que ça nous permet, nous, d'avoir plus de crédibilité quand on essaye de dire à nos associations employeuses qu'on n'est pas les seuls à avoir cette parole-là, que peut-être que leurs adhérents aussi. Donc c'est important que vous puissiez aussi transmettre cette parole-là. Merci.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire et nous arrivons à la fin de notre émission. Nous avons été en compagnie de Faustine et venons d'entendre justement tous ces jeunes qui se sont exprimés le 18 novembre 2023 à la Bourse du Travail de Paris à l'appel du collectif Non-SNU Île-de-France. Alors bon, je pense que vous avez apprécié tout ce qu'ils ont dit et moi j'ai particulièrement apprécié justement aussi, alors bien sûr ce qu'a dit Marine, Aurore, etc., mais aussi ce qu'a dit Jean-Baptiste, encadrant du service national universel et qui nous a un peu expliqué comment ça se passait et cette violence qui était générée. Alors, je crois que c'était aussi la fatigue. Il a expliqué ça, hein, Faustine, c'est ce
oui,
que vous avez entendu.
Effectivement, des horaires absolument inhumains. Et puis aussi, pour les organisateurs, le temps de planifier la suite qui fait que ce n'est pas forcément tenable pour des personnes qui, en plus, n'ont souvent pas de formation adaptée. Donc forcément, ça conduit à des situations compliquées.
Oui, parce que finalement, un encadrant du SNU, il travaille plus de 12 heures par jour, hein, presque 15 heures par jour, si on peut dire. Parce qu'en plus, la nuit, il est encore responsable
oui,
de ce qui se passe dans les dortoirs. Bon, ou dans les chambres. Bon, je veux
dire, les jeunes aussi ne dorment pas beaucoup, apparemment.
Ils ne dorment pas beaucoup. Alors après, quand ils sont fatigués, ils peuvent aussi réagir de façon violente, quoi. Je veux dire. Et il nous a expliqué tout ça, et moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que j'imaginais pas que... Je pensais que la violence ne venait que des militaires, mais je me suis rendu compte que...
On l'a créé aussi.
Voilà, c'était créé par le système. Alors je sais pas s'ils vont faire des améliorations, on nous dit sans arrêt que maintenant... Prisca Thévenot qui a remplacé Sarah Lahiri, mais enfin Prisca Thévenot, nous on s'en méfie parce qu'elle faisait aussi partie des porte-parole du parti, enfin c'est pas un parti, c'est du mouvement créé par Macron, donc c'est une macroniste à fond et elle se débrouille pour faire une pub aussi importante. Alors après ce... Les jeunes qui ont parlé, donc, le 18 novembre. Bon, on a eu quelques interventions aussi de Michel Sidorov, de la Libre Pensée, de Christian Mailleux, donc du syndicat solidaire, et puis j'ai dit aussi deux, trois mots sur l'Union pacifiste. Et c'était un peu, disons, aussi le noyau de ceux qui ont lancé, en 2019, le collectif Non-SNU. Alors, on était très contents de voir l'organisation aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est une lutte qui sera longue, et qu'il va falloir, alors qu'on nous avait dit au départ, certains nous ont dit, dans des partis politiques, je ne citerai pas lesquels, de toute façon, ça va coûter tellement cher qu'au bout de 6 mois, on n'en parle plus. Eh bien, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, et je crains qu'on en parle encore pas mal. Alors, justement, ce collectif Non-SNU Île-de-France, et le nôtre aussi, prépare des actions. Alors, il y a eu des tribunes qui sont parues dans Politis, dans Mouvement de la Paix. Il y a eu des communiqués, des tracts, des lettres envoyées aux professeurs. Et puis, maintenant, il y a ce fameux problème du stage. Pour les secondes. Alors, Faustine, Vous êtes en classe terminale, donc vous n'allez pas être touché par ces stages. Mais est-ce que vous en avez entendu parler de la mise en place de ces stages ?
Oui, effectivement. Bah, nous, dans notre lycée, on nous a proposé d'en faire. C'était des stages d'observation. J'ai pas à me plaindre sur ce côté-là. Mais oui, effectivement, on nous en a parlé. J'ai eu des échos d'autres lycéens qui ont donc effectué des stages, pas forcément dans ce cadre, mais qui m'ont raconté qu'on leur avait fait nettoyer des étagères, globalement. Donc, si jamais c'est pour une volonté d'aider à l'orientation, ce n'est pas forcément très pertinent. Et visiblement, c'est pas forcément la volonté du gouvernement. Et donc, ici, ce qu'on nous propose, c'est soit d'effectuer donc, ce stage, qui par ailleurs peut être compliqué à trouver, soit d'effectuer le SNU, donc soit de fournir une main-d'œuvre à bas coût pour des entreprises qui pourraient être intéressées, soit de devoir se rapprocher de l'armée, visiblement.
C'est... Est-ce que vous en avez fait, vous, des stages ?
J'ai eu l'occasion d'en faire un, mais...
Mais parce qu'on dit qu'il est difficile de trouver des stages.
Oui, effectivement. Bah, j'ai eu de la chance. Parce que moi, c'est grâce à une amie dont le père travaille dans une université qui m'a proposé de le faire avec elle. Mais si jamais j'avais pas eu cette amie, j'aurais eu beaucoup de mal. Et il y a tout un tas de personnes. Bah, quand on n'a pas de réseau de connaissances, qu'on n'a pas l'entreprise de la famille, l'entreprise où travaille la famille, on peut avoir du mal. Et donc se retrouver poussé vers ça.
Oui, donc c'est ce qui est prévu, c'est-à-dire que comme il est très difficile de trouver des stages, si on n'a pas les relations nécessaires,
pas grand monde qui a des bonnes relations.
Voilà, et on va dire à ces jeunes, à ce moment-là, vous faites le SNU et ça vaut pour le stage. Et ça, ça ne plaît pas du tout non plus aux professeurs. Non seulement on va leur mettre sur le temps de travail de l'école, enfin du lycée, mais en même temps, le stage, on va le détourner, parce que ce ne sera pas... ils iront souvent vers le SNU. Bon, on ne parle pas de tout ce qui prévoit aussi le gouvernement pour essayer de favoriser les profs en leur donnant quelques primes, oui. Etc. Bon, tout ça. Comme on arrive à la fin de l'émission, je rappelle quand même que nous avons toujours une page Facebook de l'Union pacifiste sur laquelle on essaie de tenir une revue de presse. Il y a quelques vidéos qui sont sur YouTube. On était à l'acte 16, on est en train de préparer l'acte 17, donc ça n'est pas toujours pas fini. Je crois, Faustine, qu'il me reste à vous remercier. Vous allez raconter à vos collègues et camarades tout ce qui se passe. Vous allez pouvoir revoir l'émission parce qu'elle reste sur le site de Radio Libertaire. Et puis nous aussi, on le met sur le site de l'Union Pacifiste. Donc ça reste, vous pouvez leur demander. Et maintenant, je crois qu'on va quand même terminer par une chanson. Une chanson de Buller sur Gaza. On a parlé, on a évoqué la Palestine.
Et tous alors, les jeunes qui sont engagés dans ce sens, effectivement.
Il y en a beaucoup, oui, sur Palestine, heureusement. Et justement, Michel Buller, qui est un musicien suisse, avait écrit en 2014 déjà une chanson pour défendre les Palestiniens. Alors on va écouter ça. Frédéric, merci.
Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte ? Gaza bombardée, massacrée, enfants ciblés, mères en pleurs, de mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie, écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les chopes et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ceux qui tuent, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, dont un seul obus va briser, sans risque pour toi, 20 jeunesse. Et toi, pilote routinier, avec tes missiles de l'horreur, ou personnifiés à jamais, la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonnes, qui penses, et n'avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé à gare. Taisez-vous, gens de propagande, larbin sans conscience ni cœur. Vos mots sont fientes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle, et vous d'ici, femme ordinaire, simple passant, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qui reste spectateur. Voici que retombe sur nous ta lâcheté et ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur?
C'était donc nous, pas la chambre qui faisions ces moments-là si doux et si tendres.
Dicumi, il court par les pingouins, en plus trunan aveas. Verum est il mihi fuisse botuliotem simile erat, et nihi mihi poderat.
Serre renolunt cum glori.
mi i cour a via valena. Tan mal am anima aveas beur. Ides quod o carissime veterissima sum sanctissimum iam anum idem edo. Euphrosia superbo rara nirasemus non valet.